Bonjour Bastien Lachaud.
Bonjour.
Un nouveau protocole sanitaire va bientôt entrer en vigueur dans les entreprises. Il sera beaucoup moins contraignant. On voit que l'épidémie n'est pas terminée. L'hémisphère sud en est l'illustration. L'Allemagne également, où on reconfine, en tout cas localement. L'hypothèse d'une deuxième vague est de nouveau prise très au sérieux par les scientifiques. Est-ce qu'on n'est pas en train de relâcher la vigilance un peu trop tôt?
Écoutez, moi je ne suis pas scientifique, donc il est difficile pour moi de répondre. Moi je fais ce que le dit le gouvernement pour l'instant. Je m'interroge sur les mesures que nous avons prises pour nous préparer à cette deuxième vague. Si deuxième vague il y a, sommes-nous prêts à y faire face mieux que nous n'avons pas su le faire sur la première vague? Est-ce qu'il y a suffisamment de lits de réanimation? Est-ce que nous testons suffisamment? Il y a des questions sur le nombre de tests. Voilà, moi je m'interroge sur l'état de préparation du pays, parce que s'il y a une deuxième vague, bien nous devrons y faire face, et le rôle du gouvernement, c'est de s'y préparer.
Ouais. Il y a une conséquence de ce nouveau protocole, c'est que le télétravail ne sera plus la règle, sauf pour les personnes les plus fragiles. Beaucoup de salariés aujourd'hui appréhendent de retourner sur leur lieu de travail, non pas de se remettre au travail, parce que beaucoup travaillaient tout de même,
bien sûr.
Mais de retourner sur leur lieu de travail, avec ce que ça suppose, les transports en commun notamment. Les enquêtes là-dessus sont assez claires. Est-ce que cette crise sanitaire aurait dû être l'occasion peut-être de développer plus largement le télétravail?
Le télétravail a ses avantages, il a ses inconvénients, il réduit les interactions sociales, il cristallise les tensions. Je ne suis pas convaincu que une société qui ne vive que par le télétravail soit possible. Après, que le télétravail soit un des éléments de l'organisation du travail, pourquoi pas, mais tout cela doit se faire en lien et avec l'accord des salariés. Il n'est pas question d'imposer le télétravail à des salariés, à mon sens.
Pour les personnes qui ont beaucoup de temps de trajet, c'est quand même un confort tout à fait considérable, non?
Tout à fait, mais le vrai problème, c'est aujourd'hui l'organisation du territoire qui contraint les gens à vivre loin de leur travail, en raison notamment de la cherté des loyers. Donc c'est aussi cela qu'il faut travailler, et travailler sur les causes et non pas uniquement essayer de résoudre les conséquences des problèmes.
Les avocats de François Fillon ont demandé la réouverture des débats à la suite des pressions évoquées par l'ancienne chef du parquet national financier. Le jugement devait être rendu lundi, ce sera donc peut-être reporté. Quelles conséquences pourraient avoir, selon vous, ces nouveaux développements?
Écoutez, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème avec la procureure générale, Madame Champrenault. Elle a fait pression sur Madame Ouellette pour l'affaire Fillon, mais il y a également la question de l'affaire Colère. Elle a imposé un procureur intérimaire justement à Madame Ouellette au sein du parquet national financier en juillet 2019, et pendant cet intérim, il y a eu un classement sans suite des affaires de l'affaire Colère après un courrier d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, au titre de l'article 64 de la Constitution, est normalement censé garantir l'indépendance de la justice. Nous avons un président qui donc écrit pour absoudre Monsieur Colère de ses fautes prétendues. Et dans la foulée, un procureur intérimaire qui classe ensuite le dossier. Cela pose vraiment question sur la manière dont Madame Champrenault gère son tribunal.
Mais si on constate, si la suite des débats juridiques indique qu'effectivement il y a eu des manipulations qui ont eu des conséquences sur l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Eh bien, on se pose des questions sur la légitimité du président, déjà, qui a peut-être gagné une élection truquée, et on s'interroge sur le rôle de la justice dans la politique aujourd'hui, et sur la question du lawfare, qui vise les opposants et qui empêche un débat démocratique cohérent et serein.
La statue de Colbert devant l'Assemblée nationale a été vandalisée hier par un mouvement qui s'appelle la Brigade anti-négrophobie. Est-ce que vous condamnez ce type d'action?
Il faut interroger nos statuts, il faut interroger notre histoire. Il y a des statuts qui ont été retirés par le régime de Pétain, notamment la statue du révolutionnaire Marat à Paris, et cette statue n'a jamais été remise en place par la République après. Donc il faut rien n'est interdit, et il faut questionner ces statuts. Nous serions plutôt favorables à
réintégrer des symboles dans notre espace public. Typiquement, le député Bellé, premier député noir de France, révolutionnaire, n'a aucun symbole, monument, salle à son nom au sein de l'Assemblée nationale. Pourquoi la salle Colbert ne s'appellerait-elle pas salle Bellé, du nom de ce révolutionnaire noir, premier député?
Donc plutôt introduire de nouveaux symboles que de retirer. Emmanuel Macron a dit nous ne déboulonnerons aucune statue.
Oui, mais c'est faux. La République a déboulonné des statues.
Peut-être dans le passé, mais lui dit on ne le fera pas.
Eh bien, il a peut-être tort. Peut-être qu'il faut savoir évoluer et revoir son histoire.
La France a rapatrié hier 10 enfants de djihadistes présumés. Il s'agit d'enfants considérés comme particulièrement vulnérables. Dans ce figure, il a fallu séparer des fratries. Certains gamins ont été ramenés, d'autres ont dû rester de la même famille. Est-ce qu'il faudrait être plus souple? Est-ce que la France devrait être plus souple en la matière?
La France doit rapatrier tous ses enfants.
Tous?
Oui.
Tous les mineurs, vous voulez dire?
Oui, tous. Tous ces enfants qui ne sont pas partis de leur fée, qui sont partis emmenés par leurs parents, ces enfants doivent revenir en France. C'est le devoir de l'État français, et c'est le devoir de l'État français que leur permettre de revenir, de suivre une éducation républicaine et d'oublier ce passage dans ces territoires.
Un mot du sondage IFOP fiducial sur la présidentielle 2022, qui a été déjà largement commenté. Marine Le Pen et Emmanuel Macron loin devant tous les autres au premier tour. Emmanuel Macron vainqueur avec 55% des voix au second tour. Jean-Luc Mélenchon serait troisième avec entre 11 et 12% des voix. C'est donc la réédition, ça serait donc la réédition de 2017. Est-ce que ce scénario est d'ores et déjà écrit ou est-ce que les choses peuvent se passer autrement?
Écoutez, les sondeurs, je ne sais pas s'ils ouvrent les poulets pour lire les entrailles ou s'ils regardent le vol des mouettes, mais c'est quand même étonnant quand on a un président qui voit sa popularité chuter de jour en jour, de se voir crédité de plus 5 points par rapport aux précédents résultats des élections présidentielles. Donc moi, je pense que c'est un sondage si lointain, ne vise qu'à une seule chose, c'est créer un pays, imposer un paysage médiatique. Je pense qu'il faut le regarder avec extrêmement de prudence. Mais si on croit ce sondage, le seul candidat qui surplombe les autres à gauche et qui est au-dessus des 10% est Jean-Luc Mélenchon, qui devient donc troisième homme de cette élection et qui est aujourd'hui l'alternative.
L'homme qui n'arrive pas à descendre du train. C'est ce qu'il a dit.
Oui, bien sûr, mais c'est pas le problème, c'est que les Français
le plébiscite, c'est ça que vous dites.
Ah, c'est ce que dit ce sondage en tout cas, si on y croit.
Oh, c'est peut-être beaucoup, 11-12% plébiscite, c'est peut-être un peu.
Vous y avez
peut-être
pas forcément un plébiscite, mais en tout cas, c'est aujourd'hui l'opposant et celui qui peut bouleverser ce duel annoncé.
Merci, Bastien Lachaud. Bonne journée.
Bonne journée.